pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 193. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on ne sait pas de quoi on va parler, puisque on a déjà eu des sommaires qui sont vaporeux, on va dire. Mais là, on s'est fait un chemin de fer, il n'y a rien dedans, à part, tiens, c'est les 40 ans de Zelda, parlons de Zelda.
Bah oui, bah, je trouve que c'est un bon sujet, Zelda.
Et cette personne qui dit que c'est un bon sujet, Zelda, c'est Monsieur Benjamin François, que vous entendez à l'autre bout de... À l'autre bout du poste. Hello Benjamin, comment tu vas ?
Eh ben, ça va. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Mais hey, c'est les 40 ans de Zelda. Et honnêtement, on n'a pas tant parlé de Zelda que ça. On en a parlé il y a très longtemps.
À chaque sortie de Zelda, depuis que ce podcast existe, depuis 10 ans.
Bah, on va parler du jeu du moment, mais on ne va pas parler de la saga en elle-même, en fait. On l'a fait, je crois, une seule fois et en 10 ans, parce que le podcast a presque 10 ans quand même.
Oui, oui. Non, en mars, on fête nos 10 ans.
Ouais. En mars, on fête nos 10 ans.
C'est bientôt l'anniversaire de quelque chose d'autre, donc je mémorise cet instant. Mémorise, parce que vraiment, on n'a rien noté, hein, c'est vrai. Mais je suis en train de me dire, en 10 ans, combien il y a eu de Zelda ? Il y a eu Breath of the Wild, il y a eu Tears of Kingdom.
Alors, si on ne compte pas les rééditions, il y a eu Breath of the Wild, Tears et Wisdom, ouais. Il y en a eu 3.
Ouais, il y en a eu 3. Bon, bah écoute, en 10 ans, c'est pas si mal.
Avant ça, c'est Triforce Heroes et c'est 2015. Donc voilà.
Ouais. Mm-hmm. Alors Benji, avant de rentrer dans le vif du sujet, attention, le vif du sujet, moi il y a quelque chose dont je voulais te parler, Benji, ça me revient.
Ouais.
Ça me revient comme un boomerang.
Vas-y.
Est-ce que tu sais ce que nous faisions, toi et moi, en juillet 2016?
Oula, juillet 2016, c'est un truc qu'on a fait tous les deux, genre j'étais en France?
Non, mais on parlait, c'était l'émission de juillet 2016.
D'accord.
Et je voudrais prendre un instant pour y repenser. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce qu'elle est exceptionnelle.
Je sais.
Mais parce qu'il
y a eu des news depuis.
Il y a eu des news depuis. En fait, voilà, ce podcast n'a eu qu'une vocation, c'était la haine, mais la haine de quelque chose. Et quand j'ai proposé cette idée de podcast et qu'on en a discuté, toi et moi, Benji, moi j'ai dit, la première émission que je veux faire... C'est sur Morandini.
Ouais.
C'est sur Morandini. Et le truc, c'est qu'avant qu'on fasse l'émission, il y a eu la fameuse histoire, le Morandini Gate. Est-ce que tu te souviens de cette histoire ?
Ah ben, je me souviens, oui, bien sûr.
Avec sa série... avec
Les
sa
Faucons.
Série, Les Faucons. Mmh. Et puis, bien sûr, toutes les histoires qui sortaient, sa conférence de presse. Et tu sais quoi ? À ce moment-là, on a fait un high five, certes à distance, mais on s'est dit, c'est bon, c'est fini.
on le verra plus. C'était il y a 10 ans, quoi. Tu te rends
compte ? On n'entendra plus parler. Et tu sais quoi ? Je suis surpris que 10 ans après, on arrive et à prendre une satisfaction de high five quand même. C'est qu'il a fallu qu'il s'auto-vire lui-même.
Ouais.
Il a fallu que lui-même dise... C'est pas ouf quand même, cette situation.
Ça a mis 10 ans. Alors, en matière de prophétie foireuse, on n'avait malheureusement pas eu le nez très creux hein, cette année-là.
Ouais, il y avait ça. Et puis, certes, les événements politiques, mais surtout ça. On va vraiment se focus là-dessus.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que, enfin, on peut dire qu'il y a un arc qui se boucle un petit peu pour After Eight. Mais faut faire confiance à la justice de ton pays. Ce truc, cette horreur, va revenir. Ce machin va revenir un jour à la télé.
Ah, c'est sûr. Ouais.
C'est évident parce que il y a. Si c'est pas sur la même chaîne, ça sera sur une autre chaîne. Et que telle maladie, ça va reprendre de l'ampleur à chaque fois et ça va revenir. Je sais pas comment c'est possible. Comment ça a pu rester 10 ans là, Benji, je te demande, comment ?
Daniel, c'est une question vraiment trop compliquée, honnêtement.
Comment tu
te rends compte ? Il y a 10 ans, on pensait en être débarrassé. Quelle erreur, en fait. C'est ahurissant que malgré ce qu'on savait déjà il y a 10 ans, ça a mis aussi longtemps, en fait.
Et tu sais, le pire, c'est que ça, c'est juste qu'on a eu ce qu'ils ont gaulé. Mais il faut voir que c'était un producteur de télé influent et que écoute, les gens que je connais, qui ont connu la télé, qui ont peut-être même côtoyé ce mec, me disaient, mais tu t'imagines même pas ce que c'est que cette machine. Et le fait est qu'il y a que, tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est Al Capone. Et qui se fait gauler pour les impôts,
ouais.
pour les impôts ou parce qu'il a mal garé sa bagnole, tu vois là. Là, il a mal garé sa bagnole et il s'est dit bon, écoutez, je me suis fait gauler, c'est bon. Mais vraiment, il me provoque un terrible dégoût avant même sa condamnation il y a 10 ans et je n'en puis plus. Et tu sais quoi, j'ai un ami, il est journaliste d'ailleurs, je précise. Lui, il a les pushs de morandini.com sur son téléphone. Et je sais pas, ami, si tu m'écoutes encore, est-ce que tu continues?
Il y a une forme de masochisme là quand même.
Il me dit, c'est complètement décadent, je le reconnais, mais il y a un truc horrible, il y a un truc formellement horrible. Et je le reconnais. Franchement, avoir ça, c'est horrible. Et comme tu sais, moi, en ce moment, je suis en train d'essayer de me sevrer de tout ce qui est réseaux sociaux. J'essaie de vraiment beaucoup plus contrôler ça. Et essayer d'en faire quelque chose de positif en perdant moins de temps avec. Et genre, ça, c'était vraiment une espèce de boule de haine qui était encore en moi et qui me disait, mais comment c'est possible que ça existe encore? Et donc, je suis assez content qu'on en soit venu à bout. Et on s'attribue, allez, soyons, on s'attribue cette fin tragique d'une carrière. C'est grâce
attends,
à nous.
Attends, honnêtement, hein, je le souhaite que ce soit une fin de carrière, mais j'ai peur que ça ne soit qu'une pause.
Ouais, je pense. Écoute, tu sais quoi, il a été tellement bon soldat de Bolloré. Que c'est pas possible que c'est. Enfin, moi, je pense que c'est pour ça.
Moi, je pense qu'il va peut-être pas revenir, sur les plateaux, mais en tant que producteur de Mec de l'Ombre, je pense que Bolloré va lui trouver une planque, quoi.
Ouais, bien sûr, mais comment un mec qui est catholique et plus que ultra-catho et tout ça, comment il peut cautionner ça en plus, genre.
Mais Daniel, tripoter des petits enfants, c'est le fondement de l'Église catholique.
Alors oui, mais il y a aussi des gens qui croient en truc et qui croient en une pratique saine de leur religion. Moi, c'est quelque chose dans lequel je veux croire que tu peux prendre quelque chose de positif dans la religion, personnellement, qu'elle soit catholique ou n'importe lesquelles autres, mais que de tout enseignement religieux que tu gardes que Morandini. Et les fachos, ça me transperce le cœur à chaque fois. Vraiment, c'est au-delà du réel pour moi. Et c'est pour ça que je bosserai jamais assez du cousin, tu le comprends.
Je pense qu'au sein du RPU, hein, à part papa qui est profondément de droite, personne n'irait bosser à CNews.
Stéphane, il est à ça, hein. Il est à ça de faire des, à intervenir en tant que haute ponte de l'éducation nationale. Il serait capable de dire dans les yeux, mais non, monsieur, j'ai jamais dit du mal de Blanquer. Jamais.
Je pense qu'il a une altercation avec un parent d'élève de craquer, je pense.
C'est clair. Voilà, c'était juste pour célébrer ce moment de une petite satisfaction que le monde nous donne, c'est qu'on le voit plus, quoi. Mais après, ils ont sans doute mis un autre connard à la place, quoi. Enfin, C'est une machine à produire de l'horreur. Hein.
J'ai apprécié Sonia Mabrouk qui, après des années à défendre le fascisme, s'est dit que finalement, bon, défendre un pédophile, c'était la limite qu'elle pouvait pas franchir.
Et en plus, c'est pas parce qu'elle a un élan du cœur. Elle est enceinte. Elle se pose des questions de genre comment élever un enfant. Légitimement, je vois complètement ce que c'est qu'avoir un enfant et les questions que tu peux te poser, genre comment apporter le bonheur, apporter la joie et en même temps une certaine, je dirais rigueur, enfin une guidance au moins, tu vois, à un enfant. Et que si tu bosses avec un mec qui comme ça, enfin c'est horrible. Et je te dis, j'ai lu les articles de Mediapart, genre il y a aucune ambiguïté là-dessus, quoi. Il y a pas d'ambiguïté sur le truc. Et quand tu le vois échanger des SMS horrible sur un mec et son neveu. Ah, je frissonne d'horreur. C'est vraiment un des articles les plus horribles que j'ai lu dans ma vie. Et pourtant, on en a eu quelques-uns ces dernières années, mais même Pouilleux et moi, on s'écrivait en se disant, mais t'as lu ce truc? C'est pas possible. Donc voilà. On a commencé bien. On se réjouit, mais en même temps, on sera vigilant quand même. Voilà. Et c'est un peu pour revenir un peu cette racine de After Hate qui est quand même la hate. Quand même.
La hate de Morandini, hein, c'était un fondement de l'émission.
Mais toutes mes obsessions d'Internet ont commencé avec ce truc, quoi. Et à l'époque, c'était juste Direct Matin et Direct Soir qui étaient filés dans le métro. Et moi, je trouvais ça hallucinant.
Ah bah oui, c'est vrai, les journaux gratuits, rappelez-vous, nos auditeurs les plus jeunes n'ont peut-être jamais connu ça, hein. La presse gratuite qui était donnée.
La presse gratuite dans le métro.
Ouais.
Et puis, il y avait Morandini qui faisait un entrefilet qui qu'il avait sans doute dicté à un stagiaire.
Mais rappelle-toi son blog, qui était un des sites les plus consultés en France, le blog de Jean-Marc Morandini.
Mais il est toujours, hein, il est toujours. Et alors, ce qui est génial,
c'est... Il existe toujours.
C'est, bah, bien sûr, mais c'est ça l'objet du truc, c'est qu'en plus...
Mais est-ce qu'il est toujours aussi consulté, parce qu'à une époque, il avait une audience incroyable, quoi.
Ce qui est ouf, c'est les alias, parce qu'il a des alias lui-même, il s'écrit à lui-même en disant « Ah, oh, Jean-Marc, vous avez maigri !» Tu vois, il s'écrit des trucs, genre, vraiment, t'en es à ce niveau-là, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoute, je pense qu'on on peut discuter Zelda chouchou, là.
Le bois ne rend pas les coups.
Alors, tu sais quoi, je te propose Zelda. Alors, tu sais quoi, on pourrait faire une tier list, mais une tier list, c'est visuel. On pourrait faire un classement, mais en même temps, il y a combien ? Il y a 20, combien de jeux canoniques ? Il y en a 25 ?
Alors, sans compter les remakes, on doit être pas loin de ça, ouais.
Ouais, 25, donc tu vois, et 25, je sais qu'on est parti pour une émission d'une heure et demie. Je sais pas pourquoi, j'ai une indice, je sais très bien ce que c'est.
C'est con, parce que moi, je voulais classer les jeux CDI, je voulais classer Crossbow Training.
On peut faire une émission spéciale. Si tu veux, on fait une émission spéciale, mais je pense que là, on aura pas le time. Déjà, tu sais quoi, j'avais dit à Stéphane, essaye d'être là, et jamais il sera là. Tu sais, genre, je me suis dit, je vais préparer les blockbusters en avance au cas où. Et finalement, il est pas hal. Voilà. Mais je garde pas ça. Pour ceux qui attendent Super Ciné Battle, je rappelle, Stéphane est pris dans le travail. Il est dans le segment travail. Mais il m'a dit quelque chose de positif. Peut-être qu'il va pouvoir reprendre les enregistrements réguliers à partir de cette semaine, en fait.
Ah.
Peut-être. Donc voilà, patience. Et désolé pour l'attente. Et il s'excusera lui-même. Il s'excusera à sa manière, j'imagine.
Ah, je sais que effectivement sur le Discord, des gens ont signalé que oui, ça fait presque 2 mois sans Super Ciné Battle.
On n'a jamais fait autant.
Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que After Eight dépasse Super Ciné Battle en régularité en ce moment. C'était pas arrivé depuis très longtemps.
C'était pas arrivé depuis très longtemps, mais moi, je suis toujours content d'enregistrer et l'un et l'autre. C'est vraiment mon espèce de socle culturel et même émotionnel, j'ai envie de te dire. Sauf que quand je sens que tu vas me dire que Zelda 2, c'est le meilleur des Zelda. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de dire notre top 3 et notre worst 3 ou top 5. Top 5, top 3, comme tu veux.
Ah bah écoute, j'en avais 3 de chaque, mais je peux en rajouter 2. Par contre, ça va nécessiter un petit peu plus de temps. Mais si tu veux commencer, je peux y réfléchir.
C'est vrai qu'il faut réfléchir à tout ça.
Déjà, un top 3 et un flop 3, il y a eu des décisions difficiles. Donc,
Ok, alors vas-y, allez, ton numéro 3.
Bah, mon numéro 3, je dirais, c'est le premier sur NES, en fait, tout simplement.
D'accord, le Famicom Disk System, celui qui fête justement son anniversaire cette semaine.
Exactement, celui-là, qui était un de mes premiers jeux sur NES. C'était pas mon premier jeu, mais c'était un de mes premiers jeux. Mmh. C'est surtout un jeu que j'avais découvert, moi, à l'époque, sur les bornes M82 de démonstration. Qui était dans beaucoup de magasins de jouets ou même supermarchés de France. Alors, pour les gens qui n'ont pas connu ça, c'était des bandes de démonstration avec... T'avais un choix entre 12 ou 16 jeux, je ne sais plus. T'appuyais sur les petits boutons qui étaient à côté de la cartouche que tu voulais lancer et en fait, ça switchait sur le jeu. Et donc, c'était une sorte de jeu à la demande. Et à la discrétion de l'exploitant, en fait, il y avait une minuterie, donc tu pouvais limiter le temps de jeu
à 10 minutes.
Ouais. Plus qu'elles étaient les options, ouais, voilà, à quelques minutes. Ou alors tu pouvais complètement désactiver la minuterie. Et moi, j'allais au Jouet Club de Saint-Nazaire, qui est là où j'habitais à l'époque quand j'étais minot. Et au Jouet Club, la minuterie n'était pas activée, donc en fait, on jouait jusqu'à ce qu'on perde.
Ah.
Et y avait des gens qui malheureusement choisissaient un jeu où ils perdaient en quelques secondes, puis il y en a d'autres qui choisissaient un jeu où ils pouvaient jouer pendant 20 minutes et puis pas être emmerdés. Et en fait, mon premier contact avec Zelda, c'était là. C'était dans ce magasin de jouets où je lançais une partie, je récupérais mon épée, puis ensuite je partais à l'aventure. Et quand ensuite je l'ai eu à la maison, c'était exceptionnel. Enfin, c'est un jeu qui m'a occupé pendant des mois. Parce que, pareil, enfant, les jeux NES, ça coûtait un certain prix. On s'en rend pas compte de nos jours, mais avec l'inflation, c'était quasiment 100 euros le jeu, quoi.
Puisque tu parles de prix, moi, je vais te faire une anecdote Zelda 1. Zelda 1, c'est un jeu que j'ai découvert exceptionnellement chez mon cousin, parce que mon cousin, il avait plus de sous, il avait plus de cadeaux, il était plus gâté, quoi, c'est tout. Et donc, il avait une NES, puisque la NES, rappelons-le, c'était...
La console des Bourges.
La console des Bourges.
Comme tu aimes dire. Ou alors la console des gens qui avaient très peu de jeux par an, ce qui était mon cas.
Oui, lui, il avait Zelda, donc, et il avait Zelda. Et ce qui est génial, c'est qu'il m'a pas guidé, mais au début, il m'a dit... au début, tu sais, t'arrives, t'es Link, et puis tu dois aller dans la grotte pour récupérer l'épée. Et moi, je commence et je me dis, je vais pas aller dans la grotte. Et là, mon cousin me dit, non, il faut que tu récupères la schmorf.
la schmorf.
Et en fait, pourquoi? C'est qu'en fait, faut pas oublier que les docs étaient des espèces de papiers dépliants à l'époque. Et ils étaient en français et en allemand.
En néerlandais. En néerlandais.
Et en néerlandais. Et du coup, il me dit... Il avait appris tous les noms en flamand. Il me dit la schmorf. J'ai dit quoi? J'ai dit la schmorf. Ah putain, mais quelle barre de rire. Déjà à l'époque, j'avais 12 ou 13 ans.
D'accord, bah.
Et je suis arrivé tardivement, ce premier Zelda que j'ai fait, bah écoute, j'en parlerai après.
D'accord.
Et bah écoute, moi, mon troisième, c'est compliqué parce que les places sont chères dans ce top.
Ouais. Après, j'ai surtout parlé de comment j'ai découvert le jeu, mais j'ai pas parlé de mon rapport au jeu, en fait. À moins que toi aussi, tu veuilles parler du premier Zelda, mais...
Bah là, je t'ai dit mon premier Zelda, mais vas-y.
Moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans ce premier Zelda, c'était vraiment cet aspect. C'était un open world, hein, pour l'époque, on peut le dire. Mmh. T'étais un petit peu lâché dans un monde inconnu. Et tu avais la possibilité d'explorer une grosse partie de la carte, même de base, alors que tu n'avais aucun objet. Alors, évidemment, quand tu récupérais des objets supplémentaires, genre un radeau, genre une échelle qui te permettait de franchir les rivières, ça te permettait de découvrir la totalité du monde, mais tu avais déjà accès à une grosse partie de la map. Et puis, ce sentiment d'inconnu, parce que tu ne savais pas où tu devais aller, parce que la notice t'indiquait où étaient, je crois, les deux premiers donjons. Mais alors après, c'était « démerde-toi pour les trouver ». Et il y a des donjons qui étaient planqués, genre il fallait cramer un buisson sur un obscur écran avec aucune indication que tel buisson tu pouvais le cramer. C'était une époque où globalement il fallait poser des bombes sur tous les murs, il fallait cramer tous les arbres parce que t'avais aucune indication. Et donc pour moi, comme je le disais, qui avait assez peu de jeux au final, moi mon anniversaire est fin juin, Noël c'est fin décembre, j'avais deux jeux par an, un fin juin, un fin décembre, donc en gros j'avais 6 mois entre deux jeux. Donc fallait pas se louper, tu vois, fallait pas acheter une daube parce que sinon pendant 6 mois t'étais bloqué qu'un jeu de merde.
Et la publicité c'était que l'heure était à 1 franc.
C'est ça, c'était 1 franc 50 je crois qu'il disait.
Non, 1 franc, il disait genre ça tombait rond chez eux dans leur calcul.
Mais en gros il te vantait le fait que t'en avais pour 300 heures de jeu. Et sur Zelda, c'était pas faux, c'est un jeu qui m'a occupé pendant plus de 6 mois, en fait. Pendant plus de 6 mois, j'ai joué que à Zelda 1. Mmh. Parce qu'en plus, il y avait la deuxième quête, ce qu'il faut quand même pas oublier. C'est qu'une fois que tu terminais le jeu, en fait, tu recommences ta partie, le premier donjon est au même endroit, tous les autres donjons ont changé de place et ils ont plus non plus le même design. T'as des ennemis qui n'existaient que dans la deuxième quête. Enfin, c'était absolument incroyable, en fait. Et... quand je me suis rendu compte que dans Zelda 3, il n'y avait pas de deuxième quête, j'avais l'impression d'être floué. C'était incroyable. Donc le premier Zelda, vraiment, c'est ça qui était exceptionnel. La deuxième quête qui en plus, alors je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, c'est juste qu'ils se sont rendu compte qu'il restait de la place. Et donc ils se sont dit, bon, bah, on va en mettre, quoi. Et je trouvais ça extraordinaire. Donc c'était vraiment un jeu fantastique. C'est une invitation au voyage, à la découverte, à l'aventure. J'avais 10 ans. Et 6 mois, il m'occupait ce jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a une place toujours dans mon cœur. Et je le refais encore de temps en temps, quoi. C'est un jeu que j'ai plaisir à relancer, à faire quelques donjons. Voilà.
Mon troisième Zelda préféré, moi, c'est celui qui se déroule sur une île. C'est celui qui s'appelle Yume-Omi Hiroshima, mais qui, en Occident, s'appelle Link's Awakening. Et j'adore ce jeu. Je le trouve vraiment d'une kawaiirie incroyable. Et je pense qu'en fait, c'était l'époque Game Boy, c'est-à-dire moins ils avaient de moyens et plus ils avaient des idées. Et j'adore ce jeu, j'adore cette espèce de poésie, le fait que tout d'un coup, bah, les singes y t'aident, enfin, t'es sur une île, enfin, vraiment, j'adore ce jeu, genre, je le trouve vraiment très beau. Ils ont fait un remake il y a pas si longtemps sur Switch. C'était pas obligatoire pour moi, mais j'adore ce jeu, quoi. J'ai pas d'anecdote particulière parce que dans le sens où, moi, j'avais pas de Game Boy non plus. J'ai eu une Game Boy très tardivement, j'ai eu une Game Boy à peu près au moment où Pokémon est sorti, en fait. Peut-être un an avant, 2 ans avant, quoi. Mais genre vers 95, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais arrivé tardivement sur ce jeu, mais c'est le jeu que j'empruntais chez les gens. J'empruntais les Game Boy, j'étais le week-end, et genre, je jouais à ce jeu, et vraiment, il y avait un truc un feeling très arcade que j'aimais.
Bah écoute, je vais rebondir. Je l'avais aussi mis dans ma liste, mais du coup, je le retire. Je vais essayer de dire des jeux que toi, tu n'as pas dit.
Tu gagnes de la place.
J'ai bien aimé le remake pour ce côté très diorama et le design très petite figurine, un peu Nendoroid que j'ai trouvé vraiment chouette. Et je te rejoins complètement sur le tour de force technique que ça pouvait être ce jeu, parce que quand on repense à ce qu'étaient les jeux qui sont sortis à l'époque où la console est sortie, enfin quand le Game Boy sort, On a Tetris, on a Super Mario Land. Et Super Mario Land, tu le mets à côté de Link's Awakening, c'est inimaginable, en fait, que Link's Awakening tourne sur la même machine. Et c'était vraiment exceptionnel. On était sur un jeu qui était quasiment aussi beau que le jeu Super NES, en fait. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de couleur et tout. Mais ouais, c'était un tour de force. Et oui, je me souviens avoir passé aussi beaucoup de temps sur ce jeu, sur Game Boy, car oui, j'avais un Game Boy.
Et du coup, ton deuxième jeu préféré ?
Mon deuxième jeu préféré, alors c'est un peu compliqué, mais je vais...
C'est pas compliqué, il y a Zelda dans le titre.
En fait, je vais choisir Majora's Mask, qui je sais est un choix qui va diviser, parce que je sais que c'est un jeu qui a divisé. Il y a dans ce jeu une atmosphère, une ambiance de tristesse que moi j'ai trouvé absolument incroyable, en fait. Il y a un feeling archi pessimiste, archi dramatique, parce que bah il y a cette lune qui va s'écraser sur la Terre, cette fin du monde qui est
c'est mélancolique, hein.
Qui est globalement inéluctable. C'est d'une mélancolie, d'une noirceur absolument terrible. Et c'est une mélancolie que j'ai retrouvée plus tard dans un autre jeu dont on parlera très certainement, soit toi, soit moi, mais qui, à l'époque, m'avait vraiment marqué. Alors, je n'avais pas de N64, donc du coup, j'avais dû emprunter la console d'un pote pour faire le jeu.
C'est aussi la console des bourges. Non, je déconne, papa, là.
Les jeux N64, ils coûtaient cher. Hein.
Ça coûtait cher, il n'y en avait pas beaucoup.
Ouais, ouais. Tu vois, j'ai toujours préféré Majora's Mask au Ocarina of Time, alors que Ocarina of Time avait été un tremblement de terre quand il est sorti. Enfin, c'était un choc, le jeu. Mmh. J'ai failli acheter une N64 juste pour Ocarina of Time. Mais Majora's Mask, au final, m'a plus marqué, je pense, à cause de cette ambiance sombre, mélancolique, même si, le côté temps limité, c'est l'antithèse de Zelda 1. En fait, dans Zelda 1, tu prends tout le temps que tu veux. Et dans celui-là, t'es obligé de tracer. Donc, c'est très intéressant que ce soit deux jeux vraiment avec des approches absolument différentes. C'est un jeu qui est beaucoup plus refermé dans un environnement plus petit, parce que évidemment, tu peux pas aller n'importe où. Mais c'est un jeu qui a su me cueillir, en fait.
Et moi, mon deuxième jeu préféré, c'est Breath of the Wild, tout simplement.
Et tu vois, c'est le jeu dont je pensais qu'on allait parler tous les deux. Parce que cette ambiance mélancolique, elle est là dans Breath of the Wild, en fait, à cause du monde dévasté, post-apocalypse.
C'est à la fois le premier jeu et Majora's Mask, quoi. C'est-à-dire, c'est l'urbex, mais en même temps, tu sais que la vie était là avant et puis il y a plus personne, quoi. Et je trouve ça vrai. Et quand d'ailleurs tu rencontres des gens, c'est un peu chelou, en fait. Tu te dis merde, il y a encore des gens vivants là-dedans. Et moi j'adore ce jeu parce que vraiment c'est vraiment le gameplay parfait. C'est-à-dire tu arrives, t'es dans ta grotte, t'as rien, t'as même pas une arme, t'as pas une indication. Est-ce que t'as même pas... Je sais même pas si t'as une chemise, hein. T'es même pas... Je sais plus si t'es pas torse-poil.
T'es torse-poil quand tu commences. T'as juste un short.
T'es torse-poil et tu sors et tu fais ce que tu veux. Alors, t'as pas grand-chose comme chose obligatoire, hein. T'as juste à découvrir le paravoile. Et après, t'es lancé, en fait, dans l'aventure et tu fais un peu ce que tu veux. Et moi, c'était vraiment le côté un peu genre... C'était un peu la réponse à Dark Souls, qui Dark Souls avait fait pour... Pour moi, le meilleur Dark Souls-like, quelque part, c'est... Les meilleurs Zelda-like sont devenus les Dark Souls. Parce qu'il y a ce côté donjon, il y a ce côté piège. Et je crois que personne ne fait les pièges aussi bien maintenant que les jeux From. Mais en tout cas, c'était la vraie réponse à la Zelda, ce que j'appelais la Zelda-lassitude. Et ça, la Zelda-lassitude, c'est-à-dire, c'est... T'as une quête... Tu dois trouver la bombe, tu dois trouver le grappin, tu dois trouver les bidules, tu dois trouver... Et tu utilises le dernier item pour un machin. Alors certes, il y a des jeux qui font ça mieux que d'autres. Par exemple, il y a des idées de donjons qui sont intéressantes dans les derniers Zelda. Mais c'est des éléments de gameplay un peu superposés les uns par rapport aux autres. Alors que Breath of the Wild, il y a vraiment une vision beaucoup plus racée, beaucoup plus clean de « Ah, voilà ce que tu peux faire, et débrouille-toi. » Alors que... Les Zelda pendant des années, les 10 dernières années, hein, presque avant Breath of the Wild, j'arrivais pas à en finir un seul. Ils me tombaient tous des mains, mais tous me sont tombés des mains, pour une raison ou pour une autre. Depuis Wind Waker, j'étais en froid avec la série. Je les ai tous finis, hein, depuis. Hein,
ouais.
Mais j'arrivais pas. Et là, Breath of the Wild, il a tout compris, quoi. Genre, pas de musique à minima, musique qui intensifie pendant le combat. Enfin, vraiment, c'est des trucs, quoi. Mais. Tout d'un coup, vraiment, il y a un petit côté... je pense que c'est... S'il n'y avait pas le premier jeu de ma liste, je pense que ce serait vraiment mon numéro 1. Et juste pour répondre à ceux qui poseraient la question, Tears of Kingdom, je trouve ça brillantissime. Je trouve que les mécanismes de Tears of Kingdom sont incroyables. Et à chaque fois que je vois des vidéos de mecs qui font des Gundam géants avec avec le système de Tears of Kingdom, je suis admiratif. Le seul truc pour moi qui fait la supériorité de Breath of the Wild par rapport à Tears of Kingdom, c'est que tu commences justement à poil et tu sais pas quoi faire. Alors que Tears of Kingdom, t'es quand même guidé pendant les deux premières heures à travers des grottes qui t'expliquent les mécanismes du jeu. Et il pouvait pas ne pas le faire parce que c'est quand même un mécanisme un peu plus complexe, mais normal, le jeu est plus compliqué, quoi. Mais par contre, en termes Wahoo, j'ai eu aussi mon lot de Wahoo dans Tears of Kingdom, le moment où je me rends compte que, ah putain, ok, d'accord, on m'a fait croire qu'il y a le monde du ciel, mais il y a aussi sous terre. Ah, ça m'a un peu esquinté la gueule. Presque, je l'ai considéré comme un diptyque, juste pour être, avoir.
Daniel, pour tout avouer, moi, j'ai mis les deux sur la même ligne, en fait. Donc, ouais. Parce que je suis entièrement en phase avec ce que t'as dit. Breath of the Wild, pour moi, c'était le retour à l'aventure. J'ai retrouvé des sensations que j'avais pas eues depuis le premier Zelda, en fait. Parce que dès Zelda 2, le chemin est un peu plus balisé, t'as un itinéraire un peu plus imposé, tu peux moins te balader où tu veux. Et A Link to the Past, bah, c'est quasiment terminé quand on commence à rentrer dans la formule où le monde ne se découvre que par petites sections et pour accéder à la suivante, t'es obligé d'utiliser un objet. Même Link's Awakening que j'adore, en fait, c'est un Zelda extrêmement linéaire au final. Quand tu le prends tel qu'il est, tu peux vraiment pas traverser toute la carte si tu n'as pas les bons objets. Et c'est quelque chose qu'ensuite, bah, ça va devenir le classique objet donjon, donjon objet boss, et ensuite tu accèdes à une nouvelle partie du monde. Et comme toi, je commençais un peu à me lasser de cette formule. Et comme toi, bon, il y a eu un Zelda qui m'est tombé des mains et je ne l'ai jamais fini depuis. Et on en parlera plus tard. Il est dans mon flop 3. Mais ouais, il y avait une lassitude et j'ai trouvé que cette idée de renouveler la formule avec Breath of the Wild en revenant aux origines, parce que vraiment pour moi c'est un retour aux sources, j'ai trouvé ça brillant. Et je suis d'accord que Tears of the Kingdom a un peu moins cet aspect liberté, notamment au début. Mais comme tu l'as dit, les mécaniques sont un peu plus complexes. Et le fait qu'elle soit au final pas tellement expliquée dans Breath of the Wild, ça a fait que les pouvoirs, je les ai moins utilisés, en fait. J'ai moins eu le réflexe d'utiliser, tu vois, le pouvoir qui arrête le temps, des trucs comme ça. Alors que je voyais des vidéos sur YouTube de gens qui faisaient des trucs absolument dingos avec ces pouvoirs-là, mais ça a jamais été mon réflexe. En fait, j'étais resté sur les fondamentaux, ce qui était peut-être une erreur de ma part. Et que peut-être si je refais, je te cache pas que j'ai craqué comme un gros pigeon, j'ai acheté les patchs pour la Switch 2, donc peut-être que je referai les deux jeux, quoi, histoire de.
Mais est-ce que tu les as vus tourner?
Oui, j'ai lancé Breath of the Wild, j'ai joué une heure.
C'est incroyable, c'est incroyable.
Ça transforme le jeu, quoi.
J'ai l'impression d'avoir passé du temps sur un jeu ralenti, tu sais, c'est vieux PC 386 où t'enlevais le bouton turbo et ça devenait un jeu lent.
Alors voilà, que pourtant, c'était... tout ce que ça fait, c'est 60 FPS et ça affine la résolution, mais t'as l'impression que ça a transformé le jeu, quoi. C'est ouf.
Ah non, mais c'est ce que... Et moi, j'avais des...
J'ai mais ça me fait plaisir parce que tu disais que tu voyais rarement la différence entre 30 et 60 FPS, mais là...
Ah non, mais c'est des jeux sur lesquels j'ai passé des heures. Ouais. Mais tu sais quoi? J'avais des enfants, les fils des copains, qui pour eux, Breath of the Wild, c'est le jeu de la vie, hein, tu vois. C'est vraiment, genre, ils ont passé 300 heures, 400 heures et tout.
Bah,
et
je crois que j'y ai passé 300 heures.
Et là, mon pote, il dit, tu sais qu'il a jamais vu Breath of the Wild HD, enfin, Switch 2. Je dis, attends, bouge pas, je le lance. Et là, il le prend dans la main, il fait, waouh!
Ouais,
Il devient fou, j'embrasse ce garçon. Il est vraiment, il devient fou, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'est pas le même jeu. Surtout quand on a passé des heures et des heures là-dessus. J'ai fait mon deuxième, du coup. Toi, il te reste plus que le premier, alors?
Bah, moi, du coup, voilà, mon premier, c'était Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Mais du coup, vu qu'on vient d'en parler, écoute, j'ai envie de faire une mention spéciale pour un jeu que, honnêtement, j'attendais pas et je m'attendais à pas aimer et qui m'a vraiment surpris. Et c'est A Link Between Worlds, qui était donc sorti sur 3DS.
Alors, j'y ai rejoué, j'ai fini en stream en plus celui-là.
Ouais.
Ouais.
Et A Link Between Worlds, en fait, moi je me disais, bon, vas-y, c'est un remake de Link to the Past, c'est la solution de facilité.
Non, c'est plus que ça quand même.
C'est tellement plus que ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé A Link Between Worlds. Alors, moi j'ai une histoire compliquée avec A Link to the Past, qui est un jeu extraordinaire, dont je reconnais absolument toutes les qualités.
C'est mon numéro 1, c'est mon Zelda préféré.
Je te laisserai en parler, mais je vais juste expliquer pourquoi j'ai eu un rapport compliqué avec A Link to the Past. C'est que je venais de Zelda 1, sur lequel j'avais passé 6 mois, et j'ai A Link to the Past, et je me dis, ah là là, ça y est, on est reparti pour une quête absolument épique et tout. En une semaine, j'avais fini le jeu. Et là, je me dis, bon, bah, il y a une deuxième quête. Il n'y en avait pas. J'étais dégoûté. Et c'est un jeu qui est bourré de qualité, qui est incroyable, qui a une inventivité folle. Et pourtant, c'est un jeu qui m'a déçu. Et alors, maintenant, quand je le refais, je me rends bien compte à quel point c'est un chef-d'œuvre, tu vois, mais sur le coup, à l'époque, le mois de, j'avais 12 ans, je crois, ben, j'étais déçu. J'étais déçu par A Link to the Past. C'est dire, mon niveau d'attente était tellement démesuré à cause de ce que le premier Zelda avait représenté pour moi.
Benji, tu n'étais qu'un enfant.
Bah, peut-être, je sais pas. J'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. Mais, A Link Between Worlds, du coup, m'a fait réapprécier tout le génie de A Link to the Past, en fait. Et A Link Between Worlds, donc juste vite fait pour expliquer pourquoi j'ai décidé de le rajouter à ce top 3, même si à la base il n'était pas dedans, mais vu qu'on est d'accord que Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ça méritait quand même une mention. A Link Between Worlds, il réinvente vraiment ce que faisait le sel de A Link to the Past, avec vraiment une mécanique toute bête qui est de pouvoir se coller au mur et donc de visiter cette espèce de monde alternatif. Et j'étais au début, j'avais peur de pas aimer cette idée de louer les objets supplémentaires, mais en fait j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça super intelligent en fait de casser ce code de donjon objet dont je parlais juste avant, dont j'étais déjà lassé en fait à l'époque.
Ouais. Et ça c'est vraiment le twist du jeu.
C'est vraiment des supers idées dont à la base j'étais super dubitatif, et en fait une fois après y avoir joué, en fait non, c'est vraiment des idées de génie, et c'est là que tu reconnais vraiment le talent de Nintendo, de savoir réinventer des formules sur lesquelles tu penses qu'ils ont déjà tout dit, en fait. Et c'est rien que pour ça, A Link Between Worlds vraiment mérite une mention, à mon sens.
J'y avais pas joué à l'époque, mais j'y ai joué après en stream, en me forçant au début, parce qu'en fait, je trouve vraiment pas beau. Encore une fois, je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment marqués par le temps et l'esthétique de leur époque. Et j'ai réussi à faire fi de ça, mais honnêtement, quand je le vois, je pense à la première année de la Saturne, tu vois, c'est vraiment pas la meilleure chose pour la 3D en tout cas. S'il avait été en 2D, c'est autre chose. Mais par contre, super jeu, vraiment extraordinaire, et l'idée de se coller sur les murs, c'est vraiment malin. Et surtout, ouais, gestion des items, ça c'est un vrai truc que les mecs qui font du game design devraient se poser les questions. Parce que je le vois même dans Elden Ring, tu vois, les items sont gérés par stock, c'est-à-dire tu récupères ce que tu peux porter sur toi, et ensuite c'est balancé dans une boîte ou quelque chose, tu vois, où j'aime bien l'idée quand même que les gens se posent des questions sur les items, et du coup les gens les utilisent pas forcément, tu sais, genre par exemple équiper un truc qui te rend puissant contre le feu, ou tu vois, des choses comme ça, parce qu'ils se disent, ah, comme je le fais en tout cas, ah, j'ai que ce nombre-là limité en stock, du coup je vais me limiter et tout. Et du coup ça fait des jeux où tu n'utilises pas à 100%, alors que...
Mais genre en mode, et si jamais j'en ai besoin plus tard.
Ouais, et ben, par exemple...
Ah ok, le gros classique, genre sur ma partie de FF4 actuelle, j'ai 99 tentes, par exemple, au cas où.
Mais tu vois, par exemple, je joue à Nioh 3 en ce moment, et Nioh 3, il y a les items que tu peux dépenser, mais en même temps, tous les items de Ninjitsu sont des trucs qui se récupèrent avec le temps.
Ouais.
Tu les récupères avec le temps, genre parce que tu donnes des coups, et du coup, ça fait monter une jauge qui te les redonne, et je trouve que c'est une méthode très dynamique.
C'est pas mal, ouais. Parce que pour revenir sur From, moi, tu sais, les sucres dans Sekiro, je les utilisais jamais parce que j'avais l'impression que j'allais jamais en récupérer, quoi.
Mais ouais, mais moi aussi, moi, les trucs, les mets ton épée en électricité et tout, j'utilise jamais. Alors, parce que je me dis, si je me fais buter par ce boss, et qu'il m'en reste 5, et je me fais buter 3 fois, ça veut dire quoi, il m'en reste plus que 2.
Voilà. Et puis, ça se trouve, derrière, il y a un boss qui sera plus sensible à cet effet-là, et j'aurais plus rien.
Voilà, ouais. je suis un toujours. Et je pense que c'est pas mal de se poser des questions là-dessus. Maintenant qu'on a fait nos 3 préférés.
Ouais.
Bon, bah, on a fait nos trois worst ou nos trois déceptions.
Nos 3 pires. Nos 3 déceptions.
Nos 3 déceptions, écoute, tu peux.
C'est pas impossible qu'on en ait en commun là encore.
Écoute, tu veux commencer.
Bah, moi, mon 3e pire, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'étais déçu par un Zelda à ce point. Alors, je parle pas de déception au niveau Link to the Past, non, vraiment, je parle d'un jeu dans lequel je ne m'amusais pas, je ne prenais pas de plaisir, en fait. Et c'est Phantom Hourglass. C'est donc le premier Zelda de la DS.
C'est le train, c'est ça?
Non, c'est le bateau.
Ah, c'est le bateau.
C'est le bateau, mais t'inquiète pas, je vais reparler du train. Le bateau.
Bah, c'est presque le même jeu, ils sont sortis à 2 ans d'écart et tout.
On va en parler. Phantom Hourglass, c'était vraiment une déception pour moi. Pourtant, ça partait pas mal, parce qu'il avait corrigé un des principaux défauts de Wind Waker, qui était... qu'est-ce que c'était casse-couille de devoir changer le sens du vent sans arrêt, et je sais que ça c'est quelque chose que le remake HD a changé.
Ouais, changé du bout des lèvres quand même.
Ah, il me semblait qu'il avait changé un peu, enfin que t'étais n'étais plus obligé de bouger le vent dans tous les sens.
Je crois que je l'ai refait. J'ai fait le remake HD il n'y a pas si longtemps.
Ok, moi, j'ai pas fait le remake HD parce que je suis pas fan de l'aspect graphique, en fait.
C'est une déception.
Ouais, je préfère l'aspect graphique du jeu GameCube parce que le remake HD, il y a trop de bloom et les persos ont des arrondis bizarres. Enfin bref, revenons à Phantom Hourglass. Donc, Phantom Hourglass partait plutôt bien parce qu'ils avaient corrigé ce truc de il faut tourner le sens du vent et tout. Non, là, tu traces un itinéraire avec ton crayon et puis le bateau, il va suivre l'itinéraire. Par contre, ils ont essayé d'utiliser les capacités de la DS et ça, c'était vraiment la fausse bonne idée. Le jeu se joue intégralement au stylet. C'était injouable. C'est injouable. Moi, perso, je suis désolé, je ne peux pas manipuler Link avec un putain de stylet. Donnez-moi le choix. Mettez cette jouabilité en option et mettez-moi la possibilité de diriger Link avec la croix et les boutons, par pitié, parce que là, sérieusement, se déplacer au stylet, puis ensuite faire des coups de stylet pour donner des coups d'épée, c'était tellement nul. C'était injouable. Et ils s'en sont bien rendu compte que c'était injouable. Le résultat, c'est que du coup, dans les donjons, t'avais quoi? T'avais max 3 monstres par pièce. C'était d'une facilité extrême. Ils t'ont mis le donjon central où t'es obligé de revenir en permanence. C'est turbo chiant. Et au final, ouais, j'ai vraiment passé un mauvais moment sur Phantom Hourglass. Et je suis allé au bout en me faisant violence. Mais c'était vraiment la première fois de ma vie. Alors, épisode CDI excepté, bien sûr. Mais où je jouais un Zelda où je n'y prenais aucun plaisir. Où j'ai dû me forcer à aller au bout. Et ouais, c'est une expérience extrêmement désagréable, alors que le jeu, techniquement, il est incroyable pour de la DS, et il est super beau, il en cel shading, il est ouf, il tourne fluide, mais moi, je le trouve injouable.
Ouais, je peux comprendre. Moi, écoute, c'est simple, moi, il y en avait un qui m'était tombé des mains à l'époque, je l'ai refait en HD depuis, c'est Skyward Sword.
Ah bah moi, écoute, c'était mon flop 1, je le gardais pour la fin.
Ah, mais écoute, Skyward Sword, vas-y. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est sorti pour utiliser les capacités de la Wiimote avec un petit bidule pour la rendre plus sensible. Et la version HD te propose d'ailleurs de repasser à une maniabilité à l'ancienne, c'est-à-dire au pad.
Alors, plus ou moins à l'ancienne. Hein.
Et j'ai envie de te dire, si t'enlèves ça, quelle est la particularité du jeu? Ben en fait, pas grande particularité. Alors, j'accorde... avec joie que à des gens qui sont fans de Skyward Sword, qu'il y a des mécaniques de donjons qui sont vraiment pas mal.
Ouais, je suis d'accord.
Il y a le coup de le donjon de la statue qui était vraiment intéressant. Tu dois te balader en symétrie avec une statue et tout. C'était vraiment une bonne idée.
Il y a des mécaniques de problématiques temporelles aussi qui sont plutôt cool. Non, les donjons, c'est le seul truc que je sauve de Skyward Sword, mais vas-y, continue, je l'achèverai derrière.
Et il y avait aussi des choses un peu vraiment, par contre. Tu te souviens, il y avait un géant qui te poursuit à un moment.
Ah bah, le banni.
Le banni, alors je sais plus.
Qui revient trois ou quatre fois, je sais plus.
Il revient trois fois au moins. Et c'est vraiment horrible. Et c'est vraiment un élément de gameplay catastrophique. Et c'est vraiment, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. La première fois, tu dis bon, ok. Et en fait, tu le retapes trois fois dans la même circonstance. Il te court après et tout. C'est vraiment un moment horrible à passer, mais horrible de jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est une de mes plus grosses déceptions. Je l'ai fait, j'ai fini sur version Switch. Je veux plus jamais le refaire. Pour moi, c'est le genre de truc qui a failli tuer Zelda, en fait.
Mais attends, si ça c'était ton flop 3, ça veut dire qu'il te reste deux pires. Attends, j'ai peur maintenant.
Ouais.
Écoute, vu que t'as parlé de Skyward Sword, alors Skyward Sword c'était mon pire, hein, c'était mon flop 1, mais je vais rebondir. Il y a tellement de choses que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est assez incroyable. Alors je vais évacuer direct, oui, le bon truc c'est effectivement il y a des donjons qui sont parmi les meilleurs de la série, et c'est vraiment une tristesse parce qu'ils sont jetés là-dedans alors que tout le reste, putain, le jeu d'origine, alors je sais que sur le remake ils ont un peu amélioré ça, mais le jeu d'origine, tu mets 3 heures à sortir de la ville de départ et c'est interminable.
Ah mais oui, il y a des dialogues tout le temps.
Il y a des dialogues tout le temps. Il y a des tutos dans tous les sens, des PNJ moches.
Laid.
C'est infâme. T'as parlé de la maniabilité. La maniabilité, parlons-en. Moi, je comprends pas comment on te vend le jeu comme ça va être plus simple pour les débutants de juste faire les mouvements d'épée, mais les combats sont archi durs parce que tu te retrouves à te battre contre des ennemis qui vont bloquer tes coups, dans certains cas, qui vont les bloquer avec une arme qui va te mettre des dégâts si jamais tu tapes pas dans le bon sens. La Wiimote, bon, qui se désynchronise et qu'il faut resynchroniser, il y a une touche pour la resynchroniser quand même, c'est donc qu'ils ont bien conscience qu'il y a un problème. Et en fait, je me rends compte que sur les trois jeux Zelda que je n'aime pas, dans les trois cas, c'est que je les trouve injouables, en fait. Skyward Sword, le jeu d'origine, je le trouve borderline injouable. On est passé d'une série genre qui a réinventé le jeu d'aventure en 3D avec Ocarina of Time, une série qui est quand même connue pour sa maniabilité relativement exemplaire. Même les jeux mal aimés ou les plus durs de la série, genre Zelda 2, le personnage il répond au doigt et à l'œil quoi. Derrière, le jeu il est difficile, tout ce que tu veux, mais ça c'est jamais un problème de jouabilité. Skyward Sword, je le trouve injouable. Je parle même pas des passages où il faut nager, où en fonction de comment tu orientes la Wiimote, Link se déplace bizarrement. C'est un enchaînement de quêtes de collecte. Ça aussi, c'est hyper chiant. Genre, pour accéder au moindre donjon, faut que tu récupères 10 objets et tout. À chaque fois, cette espèce de... Ce que j'avais trouvé, c'était le côté aventure dans Wind Waker, où oui, c'était des petites îles perdues au milieu d'un immense océan, mais au moins, il y avait un lien, il y avait ce voyage dans l'océan. Alors que là, le ciel... Il n'y a pas de lien, en fait. Tu es juste dans un ciel vide et de temps en temps, ah, bah là, tu vas descendre pour accéder à une zone qui est complètement détachée de tout le reste. Honnêtement, hein, Skyward Sword, je veux sauve l'aspect graphique qui, je trouve, vieillit pas si mal. Cet aspect un peu impressionniste, façon peinture de Cézanne qui reste cool. Et les donjons, mais tout le reste, pour moi, c'est une catastrophe absolue. Je me suis fait violence pour aller au bout. J'ai détesté chaque seconde. Tu l'as dit, le banni, c'était horrible. Le boss de fin, qui limite, c'est plus facile que le premier boss du premier donjon, tellement la maniabilité, elle est catastrophique. Enfin, c'était un enfer absolu et en HD j'ai refusé de le refaire.
Ah les boss ils sont.
En HD j'ai refusé de le refaire parce que même en HD tu dis la maniabilité ils l'ont changé pour mettre un truc un peu plus classique mais pas complètement classique hein. Ça reste un peu foireux. Hein.
Mais tu sais quoi, faut voir aussi un truc positif. Skyward Sword et les jeux dont je parle, c'est des jeux qui vont permettre à Breath of the Wild d'aboutir. Je pense que sans le plantage de Skyward Sword et là je vais dire aussi mon deuxième. Alors je parle aussi c'est des déceptions pour moi. Hein.
Ouais parce que. Je pense que Skyward Sword, il s'est bien vendu. Hein. C'est pas un plantage commercialement, je pense. Hein.
Moi, j'ai vraiment du mal avec Twilight Princess pour moi.
Ouais.
C'est celui que je mettrai en deuxième. Twilight Princess, faut comprendre, quand je me suis mis pour essayer de le finir, faut comprendre le moment où il sort, c'est 2006. C'est post Lord of the Rings. Et tout le monde voulait un truc dark, grim and gritty. Tu sais, un peu comme ils avaient montré des trucs en CG de Link au début de la N64, ou tu sais, un peu genre Dark Link, tu vois, genre un peu grim, tu vois, un truc un peu serious business, quoi. Et tu sens que l'influence de Lord of the Rings est là et qu'ils se sont dit, on va essayer de faire un truc un peu plus dark, qui se transforme en loup et tout. C'est l'overworld le plus claqué au sol que j'ai jamais vu de tout Zelda. Il me reste rien de ce jeu et je suis pas fan. Je suis presque prêt à mettre ex aequo Wind Waker parce que Wind Waker, autant c'est un tour de force créatif, je trouve que vraiment c'était une audace absolue, mais je trouve que c'est un jeu qui a pas assez de beefsteak en fait.
À la fin, tu sens qu'ils l'ont rushé malheureusement quoi.
Il y a pas assez de donjons. À la fin, tu vois tout de suite qu'il y a tout un monde qu'ils auraient pu faire, le monde Hyrule. Tu pouvais aller dans Hyrule. Et en fait, finalement, ils ont fait mais non, on va pas faire ça. Et puis surtout la maniabilité liée au bateau, c'est catastrophique. Vraiment, même en version refaite, c'est horrible à jouer. Et quand tu te rends compte que finalement les Triforce À l'époque, j'y avais joué sur GameCube et tout.
Ouais, la quête de la Triforce, c'est un enfer.
En version japonaise, et que je comprends que le Triforce, c'est des morceaux de trucs à chercher dans l'eau. J'ai dit, c'est bon, j'arrête.
Ouais.
J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et il a fallu que je me fasse violence sur la version HD sur Wii U pour me dire, allez, ok, ce coup-ci, j'y vais jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout.
Bah après, t'étais presque au bout, hein, si t'étais à la quête de la Triforce. Moi, je l'avais fait à l'époque, et c'est vrai que c'était une déception, cette quête de la Triforce. Ça manquait d'épique.
Tu le fais avec une soluce, quoi. Mais vraiment, que le Triforce soit un objet planté dans l'eau, c'est vraiment scandaleux.
Bah surtout que ce qui était chiant, c'est qu'il fallait trouver une carte qui te pointait vers une carte qui t'indiquait où était la Triforce. Enfin, c'était vraiment très très mal branlé. Et c'est dommage parce que les premières heures de Wind Waker sont extraordinaires.
Ah ouais, c'est incroyable, c'est vraiment super. Donc moi, je parle de simili-déception parce qu'en vrai...
Ouais, je comprends.
En vrai, j'ai parlé de Twilight Princess, mais ouais, Phantom Hourglass, c'est moins bien, hein, évidemment. Mais je parle de déception en tant que... Ah, on a essayé de faire un gros truc et je vois ce qu'ils ont essayé de faire et je vois le résultat. Et pour moi, honnêtement, il n'y a jamais eu plus grande déception que Majora's Mask.
Ah ouais.
Moi, c'est Majora's Mask le problème. Pourquoi ? C'est parce que
vas-y.
C'est le jeu que j'aurais adoré. C'est-à-dire, quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, conceptuellement, c'est super fort. Les idées sont là, les machins sont là. » Et j'ai jamais réussi à me motiver à travailler avec ce gameplay.
Ah, je comprends complètement.
Genre, il faut prendre des notes sur, il faut aller tel endroit avant 14 heures, sinon c'est foutu, sinon tu repars pour un autre cycle et tout. Et même, j'ai essayé trois fois, dont une fois avec Solus, deux fois avec Solus, genre, une fois avec Solus normal, une fois avec Solus précise et tout. Et genre, j'arrivais pas, c'était pas assez intéressant.
Ouais.
J'arrivais pas à me faire prendre par le truc épique. Je pense que c'est celui qui mériterait le plus un vrai remake et pas juste un truc un peu fallow sur 3DS.
Ouais, mais si tu veux bien lui donner une quatrième chance, joue-y sur 3DS justement parce que t'as pas besoin de prendre des notes. Il y a un journal et ça change tout.
Ben ouais, mais.
T'as un journal qui te permet de savoir où aller, quand y aller et pour tenir compte des différentes quêtes et des différents trucs à faire. Et c'est vraiment bien. Après, bon, conceptuellement, je peux complètement comprendre. C'est un jeu, effectivement, qui divise.
Le prochain remake, j'essaierai, mais là, c'est pas possible. Et même sur 3DS, hein, j'ai essayé, hein, mais ça m'intéresse pas assez. Mais c'est con, hein, je trouve que celui, en termes d'ambiance, il est vraiment assez... Bah, ça, c'est le Dark qu'ils auraient dû faire plutôt pour...
Ouais.
Plutôt que tenter Twilight Princess, quoi. Mais je sais que pour plein de gens, Twilight Princess, c'est le Zelda d'une génération, hein, faut pas oublier.
Ah oui, oui. Bah, et je veux revenir sur ce que je disais. Donc, Skyward Sword, au final, il s'est vendu à 3,6 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas si mauvais, mais considérant le parc installé de Wii, en fait, c'est nul. Mm. Et Twilight Princess, il s'est vendu à 8 millions, lui. Presque 9. Et bon, c'est sûr que par rapport à Breath of the Wild et ses 32 millions, bon, bah voilà, quoi. Il n'y a pas photo.
Voilà. Ouais, mais c'est parce que t'as compté les 2 millions de versions Wii U, quand même.
Mais, et Twilight Princess, j'ai compté la version GameCube, qui est celle que j'ai.
Et mon spin-off préféré, c'est Hyrule Warriors. Hein, je te le dis, c'est le
premier Hyrule Warriors.
Non, le deuxième, qui s'appelle Calamity.
Age of Calamity.
Ouais.
Que je vais commencer à y jouer bientôt, là.
Bah, tu sais quoi, il est dur à jouer parce que. Framerate et tout ça, je comprends que les gens puissent faire sur la technique.
Ouais, la technique, c'est pas ce qui m'empêchera. Écoute, on verra. Mmh. J'avais beaucoup aimé le premier, même si je l'avais trouvé un peu trop, en fait, bourratif.
Oui, mais le dernier m'a fait comprendre que, ah oui, en fait, la technique, c'est aussi pas mal.
Ah oui, j'ai pas joué au dernier sur Switch 2, il est pas bien?
Si, mais si, en fait, yeah. Le jeu est moins intéressant que le 1, le deuxième.
Ouais.
Mais par contre, bah, techniquement, il lui met 6-0, 6-0, 6-0.
Et il le met à l'amende, ouais, bah tu m'étonnes. Bah, du coup, il me reste mon flop 2, vu que mon flop 1, c'était Skyward Sword.
Ah oui, vas-y.
Mon flop 2, c'est Spirit Tracks.
Non, toi, vraiment, tu les aimes pas. Hein.
Ah, ben, les deux épisodes DS, pour moi, c'est vraiment deux catastrophes absolues, quoi. Spirit Tracks, c'est donc le seul Zelda de toute ma vie que je n'ai jamais terminé. Il y a eu un moment, j'ai dit, bon, bah, j'arrête, c'est bon, c'est terminé, j'en peux plus. On aurait pu penser que c'était difficile de faire plus injouable que Phantom Hourglass, mais ils ont réussi. Alors, ils ont corrigé quelques trucs dans le déplacement de Link. Je trouve que le déplacement de Link est un peu meilleur, mais le train, enfin, c'est la pire idée du monde. C'est un jeu qui te met littéralement sur des rails. C'est un Zelda dans lequel il n'y a plus d'exploration du tout, parce que tu es sur des putains de rails. Et ils t'ont refait le donjon central, qui était là encore très mauvaise idée. Les donjons sont pas intéressants, les combats sont nuls. Les déplacements, même si j'ai dit ils les ont un peu améliorés, ça reste catastrophique. Enfin, je veux dire, tu joues sur le même écran que celui sur lequel t'as le stylet. Donc en fait, il y a ta main qui cache la moitié de l'écran quasiment en permanence. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée, quoi? Et non, c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment pas intéressant, c'est pas jouable. Ce qui, globalement, est le principal reproche que j'ai à donc, mes trois pires Zelda, c'est la jouabilité catastrophique. Et Spirit Tracks, ouais, c'est un jeu que je n'ai jamais terminé, je pense que je ne le terminerai jamais. Je pense que c'est vraiment de la grosse derme. Et absolument insupportable, en fait. C'est l'antithèse de tout ce que j'aime dans Zelda.
Maintenant que t'as fait tout ça, Benji, qu'on s'est tout dit sur les Zelda qu'on aime et qu'on n'aime pas, je veux juste te dire. Est-ce que t'es prêt pour Zelda Real Battle on Film qui sortira l'année prochaine puisque l'année prochaine il y a le film Zelda qui sort avec des vrais acteurs.
Donc, et je comprends pas pourquoi ne pas l'avoir fait en CG, bordel.
Ah, c'est bizarre, hein.
Déjà, tu sais, mon avis sur les films tirés de jeux vidéo, c'est que franchement, si c'est pas pour raconter une histoire annexe ou un truc un peu différent, je ne comprends pas l'intérêt d'adapter un jeu vidéo en film déjà de base. Mais putain, là, oh là 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 là, en live action en plus, oh là 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 là. Non, vraiment.
Écoute, quand t'as fait plus d'un milliard avec Mario, tu peux te dire que tu tentes le coup avec Zelda.
Ah, je comprends pourquoi ce film existe, je comprends pas pourquoi ils le font pas en CG par contre. Vraiment, je le comprends pas.
Mais bah, bon. parce qu'ils veulent faire leur Lord of the Rings. Ils veulent faire un Lord of the Rings plus joyeux. Enfin, moi, ça me paraît évident. Et puis bon, en plus, ils ont pris les. Je sais pas qui. Ils ont pris Wes Ball, le mec qui avait fait le Le Kingdom of the Planet of the Apes.
Ouais, bah, qui est pas un manche, hein. Il était bon, le film. Attends, il était pas numéro 1 de nos blockbusters l'année dernière.
Je me demande s'il était.
Enfin, de 2024. Si, si, il était 1. Ouais, on l'avait classé premier, hein.
J'en ai aucun souvenir.
L'année Furiosa, rappelle-toi.
Ah, mais les blockbusters de cette année, il y aura Mario ce coup-ci.
Ah oui, c'est vrai.
Il y aura Mario.
D'ailleurs, il faudrait qu'on arrive à récupérer papa quand même, hein, pour graver dans le.
Faut qu'on arrive. On a pris 6 enfants en otage.
Ouais.
Tu les entends au loin.
Ouais, je les entends.
Normalement, Stéphane va venir faire avec nous l'épisode Blockbuster. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher. Hein. Sinon, on le prend, on utilise une IA et on le.
Oui, on fait parler l'IA à sa place. De toute façon, on dira pas plus de conneries que lui. Hein.
Personne ne remarquera la différence.
C'est ta dernière chance de laisser tomber.
Tu déconnes ? On est à 5 contre 1.
C'est 3 contre 1.
Mais comment tu comptes ?
Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
C'est ce que ça serait pas le bon moment de balancer nos recos, Benji.
Mais c'est ce que ça serait le bon moment.
C'est ce que ça serait le bon moment. Alors Benji, After Eight, c'est un titre trompeur parce que tu sais, à la fin, on balance nos recommandations, tout ça. Et t'as vu, After Eight, pour une fois, on a commencé en disant du mal. Pour une fois.
Ouais, bah on parlait de Morandini en même temps, hein, il fallait bien.
On frappe un homme au sol, je sais, mais...
Ouais, mais c'est Morandini, il mérite. Écoute, je commence.
De quel film tu vas nous parler qui est sorti qu'aux États-Unis ?
Eh bah, ben voilà, j'allais dire, j'ai été fidèle à ma grande tradition de recommander des films qui n'ont pas de date de sortie en France.
Non. La dernière fois, faut quand même dire, c'est que des films qui sortaient à une semaine près, donc t'étais dans le early preview. Alors que là, je suis pas sûr.
Mais c'est sorti, Is This Thing On, du coup ?
Is This Thing On, je crois qu'il sort, il doit sortir, ben là, il y a les projos, mais je crois qu'il sort cette semaine, je crois qu'il sort cette semaine ou sort la semaine d'après. Voilà.
D'accord, cool, ok. Bon, bah du coup, bah, le problème, c'est que là, le film dont je vais parler, pour le coup, n'a lui pas de date de sortie à l'heure actuelle. Alors, bon, il n'est pas interdit d'espérer, mais j'ai peur qu'ils soient en train de se ramasser au box-office américain, c'est malheureux, alors qu'il a de très bonnes critiques. C'est donc le dernier film de Gore Verbinski qui s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die. Gore Verbinski, pour les gens qui l'ignoraient, c'était le réalisateur des premiers films Pirates des Caraïbes, les trois premiers films. Le réalisateur de Rango, qui, je sais, est très apprécié sur le Discord du RPU, et aussi dernièrement de A Cure for Wellness, qui il me semble d'ailleurs était son dernier film en date avant Good Luck, Have Fun, Don't Die. Donc il a eu une petite période de hiatus de presque 10 ans parce que le film s'est globalement gaufré. Il était supposé réaliser le film Gambit qui ne s'est jamais fait et donc du coup bah voilà, Good Luck, Have Fun, Don't Die, c'est donc son retour sur le grand écran. Et qu'est-ce que ça raconte Good Luck, Have Fun, Don't Die? Alors je vais essayer d'en spoiler le moins possible parce que c'est un film qui se déguste et qui est bourré de surprises. Donc vraiment, ce serait dommage que je gâche ces surprises.
On n'est pas le genre.
Globalement, c'est l'histoire d'un homme qui débarque dans un diner de Los Angeles à 22h10, donc à 10h10 PM, comme on dit dans mon pays de fou, et qui annonce qu'il est là pour sauver le monde parce que l'humanité est condamnée à vivre sous le joug d'une sorte d'IA tyrannique que globalement ça va être la merde. Et en fait son idée c'est que il sait qu'il y a une combinaison de gens dans ce resto qui va lui permettre de mener à bien sa mission, mais qu'il a déjà essayé plusieurs fois et que à chaque fois au bout d'un moment ça foire, qu'il reset la timeline et qu'il essaye avec des gens différents. Et pour les convaincre, donc, il leur sort des choses extrêmement personnelles, et donc il arrive à convaincre un petit groupe à chaque fois de l'accompagner comme ça. Et globalement, ça commence sur un monologue, ce qui est assez curieux parce que le film commence de cette manière assez, je vais pas dire spectateur friendly, mais si c'est l'idée, c'est que t'as vraiment ce type qui déclame son monologue, qui parle tout seul dans son diner avec tout le monde qui le regarde. En fait, ça rappelle un peu la scène de fin de Pulp Fiction, tu vois, où t'as les braqueurs dans le diner avec le personnage de Samuel L. Jackson qui se lève et qui va leur parler. Là, c'est un peu le même setup avec ce perso qui ressemble à un clochard, on peut le dire tout net, hein. C'est pas le voyageur du futur avec ses équipements futuristes, c'est une sorte de clodo.
C'est pas Trunks.
Voilà. C'est une sorte de clodo avec un gros ciré transparent avec des pièces d'électronique accrochées à droite et à gauche. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est difficile de le prendre au sérieux en fait. Et Parmi les personnages qui vont le rejoindre, en fait, t'en as quelques-uns dont l'histoire va être racontée via des flashbacks. Et tu vas découvrir, en fait, que le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde... Alors, c'est jamais dit expressément en quelle année c'est, mais c'est un futur proche, assez dystopique, mais qui dans lequel, en fait, tous les problèmes de notre société actuelle sont exacerbés. Genre, tu sais, on parle beaucoup de l'addiction aux écrans, on parle beaucoup du développement de l'IA, notamment de nos jours. Ce qui est assez fou, c'est que le film arrive à être assez actuel là-dessus. Il parle aussi d'un sujet qui est très sensible aux USA, que je ne vais pas dévoiler parce que je ne veux absolument pas gâcher la surprise. Et il arrive à faire rire avec des trucs qui sont absolument horribles, mais de manière très intelligente, parce que ce qui est dénoncé, c'est le système qui a permis à ces choses d'arriver. Et globalement, Good Luck Afghan Dandaï, c'est vraiment un ride. Il y a eu un moment où je disais, ok, je pense que je vois où ça veut aller. Bon, c'est finalement, la fin n'est pas à la hauteur du début. Et je me suis fait cueillir, en fait. Le film arrive quand même à te surprendre. Donc, c'est vraiment une excellente surprise. Donc, Sam Rockwell qui joue le personnage principal, donc cette espèce de clodo magnifique. Mais il y a aussi Zazie Beetz, il y a Juno Temple. Juno Temple que vous connaissez via Ted Lasso, si vous avez vu Ted Lasso notamment. Il y a Michael Peña qui est un acteur que je trouve à chaque fois super drôle. C'est lui le latino qui parle super vite quand il raconte des trucs dans les deux premiers Ant-Man. C'était peut-être le meilleur perso des deux Ant-Man d'ailleurs. Et puis il y a une actrice que moi je connaissais pas, mais que toi tu connais peut-être, Daniel, qui s'appelle Hayley Lou Richardson. Et elle était dans The Edge of Seventeen, que je sais que tu as vu.
Ah oui oui, ça me dit. Oui.
Et elle était dans Split aussi.
Ok, oui oui.
Et je vois qu'elle est dans la deuxième saison de The White Lotus, que j'ai toujours pas regardé. Mais donc elle a un rôle très important dans ce film-là, où elle, on dirait une gothique un peu paumée qui finalement rejoint le groupe.
C'est
parce
bon,
que
je vois très bien. Maintenant que tu me dis White Lotus, c'est bon, je vois très bien qui c'est.
Ouais. Et donc voilà, donc tous les personnages sont vraiment intéressants et y a vraiment des situations très drôles. Et globalement, ouais, c'est bien vu. C'est pas, tu vois, c'est pas caricatural, genre, oh là là, les téléphones portables, c'est nul. Non, non, ça va un peu plus loin que ça, en fait. Ça parle plus de qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes plutôt que, oh là là, ces jeunes générations qui sont scotchées à leurs écrans. Non, on est au-delà de ça. Et moi, le film m'a beaucoup rappelé Everything Everywhere All at Once dans son côté un peu jusque-boutiste et très très foutraque. Et je suis pas le seul, hein. Je vois que plusieurs critiques professionnelles ont comparé le film à Everything Everywhere All at Once. Alors malheureusement, Good Luck Afghan Dandaï est en train de se croûter au box-office américain, donc il n'a pas le succès qu'a pu avoir l'autre film. Et c'est très dommage, donc j'espère que malgré ça, il aura quand même une date de sortie en France. Après, hein, vu qu'il se croûte, bah, il sera disponible en streaming assez vite, hein, on va dire ça. Mais ce serait dommage de ne pas le voir au cinéma, voilà.
Ah bah écoute, pour une fois, tu nous as fait une... On n'a pas la date, mais comme on n'a pas la date, ça veut dire que j'aurais déjà tout oublié de ce que tu as dit d'ici là, à part le titre qui s'appelle... C'est Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Ouais.
Pour ma part, bah écoute, le jeu dont je parlais peut-être dans les bonus, je crois que c'était dans les bonus de... C'était Nioh 3, hein, dont j'avais pas le droit de parler au moment de sa sortie.
Ouais.
Maintenant, c'est bon, je peux en parler, je suis fan de Nioh 3 parce qu'il m'apporte... un peu de satisfaction très Sekiro-esque, c'est-à-dire
moi j'ai vu Nico Oni y jouer, ouais. Et j'avais l'impression qu'il jouait à Sekiro, en fait. C'était très bizarre.
Ça fait très Sekiro. Tu peux le jouer comme Sekiro, tu peux le jouer un peu plus comme un Dark Souls d'ailleurs. Bizarrement, Puyo le joue samouraï, moi je joue ninja beaucoup plus. Et c'est vraiment très satisfaisant parce que c'est à la fois aussi tout ce que tu as envie d'un jeu de map. C'est-à-dire, tu parlais de Spider-Man, bah donc en fait tu as plein de petits trucs sur la map à aller chercher, à débusquer et tout ça. Et tu dois au fur et à mesure prendre le contrôle de la région au fur et à mesure que tu débloques des choses. C'est assez passionnant et en même temps les boss, bah ils sont un peu soulziens. Donc tu vas crier, tu vas machin, tu vas t'acharner et à la fin tu vas gagner parce que c'est comme ça les Souls-like. Donc c'est pas complètement un Souls-like parce que pour moi les Souls, ce qui fait la profondeur des Souls, c'est le level design et personne ne fait vraiment les level design comme From Software. Et là bon, c'est quoi Tecmo, mais par contre c'est quand même un jeu très très solide. Ça aurait pu être un des meilleurs jeux de ninja à part Sekiro s'il n'y avait que les ninjas, mais comme c'est aussi un jeu de samouraï, ça fait un peu les deux, c'est un peu bizarre. Au début, je trouvais l'idée un peu stupide, parce qu'en fait, pourquoi il se transformerait, c'est quoi, c'est une magical girl, pourquoi un samouraï se transforme en ninja et vice-versa. Mm-hmm. Et en fait, quand tu acceptes l'idée un peu stupide, enfin l'idée un peu absurde de ce monde qui mêle à la fois Tokugawa, voyage dans le temps... Enfin, tu vois, genre, c'est ce que j'appelais dans Submersion Turbo, j'appelle ça le Tokugawa bullshit. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment, on a mis tout n'importe quoi des guerres dynastiques, et on a tout mis en un seul truc, on a secoué dans un gros shaker, et voilà ce qui, t'as des fantômes, t'as des bidules, c'est n'importe quoi. Les gens qui disaient, oh là là, franchement, Assassin's Creed, ils respectent pas l'histoire. Attendez, regardez ce que les Japonais peuvent faire à leur propre histoire. Regardez, ils sont YOLO, il y a juste pas des personnages cheveux bleus et des femmes chats, mais franchement, on est à ça, quoi. Donc voilà, j'adore Nioh 3. Et tu sais ce que je me suis mis à regarder, et c'est un peu sur les conseils de Stéphane. Mm-hmm. Je me suis mis à regarder The Pit, la série, une série médicale, une série sur l'hôpital.
Ouais, ouais, que je connais très bien, ouais. Enfin, j'ai pas regardé, mais je connais très bien. Il y a des billboards partout, en fait. Bah, il y a Noah Wiley en urgentiste, en fait.
Il y a Noah Wiley qui reprend le même rôle que. Enfin, c'est un peu Dr. Carter, mais ouais. Avec 20 ans plus, quoi. Ouais.
Pour nous qui avons grandi avec ER, c'est quelque chose, quoi.
Et il est génial. Et il y a un truc très poignant, c'est que c'est un jeu qui s'occupe très peu des dramas, en fait, de famille. J'appelle drama tout ce qui entoure le truc de famille. S'il se concentre vraiment sur le truc médical, parce que ces séries, c'est une heure à chaque épisode de la saison, et un segment d'une heure, ça commence à 7h du matin, mm-hmm. et ça continue comme ça jusqu'à 14 épisodes. Évidemment, il y a des drames, et évidemment, c'est une série, donc c'est condensé, donc il y a forcément au moins un gros truc qui arrive par épisode, et parfois des trucs pas heureux qui s'accumulent, et c'est ce qui arrive dans la première saison. Mais la première saison, je t'ai dit qu'il y a quelques jours, donc ouais. je peux te le dire que quand moi ça me hook. Et alors, c'est aussi une des rares séries, mais c'est là où on prend de l'âge, et j'en ai parlé à Stéphane, c'est que j'ai chialé à plusieurs épisodes, parce que évidemment on a vieilli, donc nos aspirations aussi en vieillit, mais on se reconnaît aussi dans le Dr. Carter qui vieillit. C'est un peu nous, c'est un peu notre POV,
ouais.
Et en même temps il y a du coup Quand tout d'un coup, c'est une série qui n'hésite pas à faire mourir des personnages, dont je parle des enfants, pas des enfants nommément, parce qu'en général, on évite toujours les morts d'enfants dans les séries, c'est trop dur. Mmh. Et là, il y a des enfants qui meurent, il y a vraiment des choses vraiment très très dures, et à un moment, je sors de la chambre, où j'avais regardé, et ma meuf m'a dit, mais ça va pas? Et je dis, non, ça va pas du tout. je pouvais pas en parler, c'était trop dur. Et il y a des moments vraiment, vraiment, vraiment poignants. Et évidemment aussi, ces séries agissent aussi comme un polaroid de ce que c'est que la médecine aux États-Unis, c'est-à-dire la médecine urgentiste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a le serment d'Hippocrate, et en même temps, il y a beaucoup de conflits de chain of command, et aussi... il y a des gens dont c'est pas l'intérêt qui soigne tout le monde.
La thune, et que tout d'un coup, on
te dit, ah non, tel mec, il faut qu'on le bouge d'hôpital, et c'est pour une raison de machin, vous êtes sûr, c'est pas dans l'intérêt du patient. On fait, ouais, mais c'est comme ça, et c'est vraiment comme ça.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une série qui se pose assez ces questions, et clairement, tu peux pas faire ce genre de série si tu ne crois pas en la médecine pour tous, et que tout le monde ait droit à un accès aux soins. Tu peux pas produire une série comme ça si t'es pas d'accord avec ses principes fondamentaux. Et je pense que c'est plutôt utile des États-Unis. Je pense que c'est ce genre de série, quand t'es fait comme ça, hein, pas, je parle de Grey's Anatomy qui est, Grey's Anatomy, c'est une rom-com déguisée en série d'hôpital.
En série médicale, ouais.
Ouais, mais, oui, tu peux pas faire un truc conscient sur la société américaine si tu évoques pas ce genre de choses vraiment frontalement. Et du coup, Pupit m'a donné quand même une vraie vraie satisfaction, et même plus que à la rigueur que ça fonctionne, parce que je connais aussi hier, et que du coup t'as un parallèle qui se crée, c'est inévitable. Mais comme ça s'attarde moins sur leur truc personnel et plus sur un truc une quête globale qui est quand même le soin des patients, et bah du coup je suis complètement accroché, et d'ici 3 jours j'aurai rattrapé le rythme, j'aurai rattrapé les 2 saisons, je serai à fucking jour, et je suis partant pour la chialade. Voilà, donc moi j'ai adoré The Pitch, je pense qu'on en reparlera avec Stéphane, parce que lui était mordu avant moi, et c'est lui qui m'a dit, bah tu devrais regarder cette thème rasa. Lui, évidemment, dès qu'il y a une série un peu de gauche, il plonge les c'est pour se rappeler un peu qui il était avant, tu vois, bien sûr.
Ouais, ouais, bah oui. Ouais.
Voilà, donc je recommande.
Avant d'être un homme à responsabilité.
Je recommande The Pit, c'est sur HBO Max ou Max ou whatever the word there. C'était After Eight.
C'était After Eight.
qu'on peut retrouver sur le site officiel et sur toutes les applis dédiées. On vous remercie de nous suivre depuis tout ce temps-là. On vous remercie de nous soutenir, patreon.com/RPU.
Depuis presque 10 ans.
Alors, le Patreon moins, mais oui, c'est vrai que...
De nous suivre depuis presque 10 ans.
On vous remercie de nous suivre depuis plus de 10 ans. Bientôt 10 ans, mais ça sera, on fêtera l'anniversaire le mois prochain.
Il va falloir. Hein.
Il va falloir, genre, waouh, qu'est-ce que vous avez fait de vos 10 ans?
Ouais, et puis, écoute... moi, ce serait bien qu'on se fasse un petit enregistrement tous les deux. Moi, j'ai prévu de venir en France bientôt, donc...
Oui, voilà, c'est obligatoire qu'on... si tu viens en France, c'est obligatoire.
Qu'on marque le coup, quoi.
On marque le coup, on va forcément marquer
le coup. Si c'est pas pour les 10 ans, ce sera pour l'épisode 200.
Oui, voilà. Oui, ça tomberait presque en bon moment.
Dont on se rapproche, hein, on s'en rapproche.
Oui, ce serait marrant. Et finalement, on fera un spécial, un pour les 2 ans, un pour le... Ouais, soyons fous.
On va voir, ne tirons pas trop sur la comète quand même.
J'ai une idée de guest, mais attention, il n'est pas libre tout le temps. Et ProTips, il est devenu de droite.
Ah, moi, j'allais dire, Morandini, il est vachement disponible maintenant, par contre. Hein.
Ah non, je pense à Stéphane Boulet quand même. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao.
Bisous, ciao.
Je me suis mis à rechialer en pensant à The Pit. C'est trop dur pour moi. Je suis trop sensible pour ces trucs.
Ouais, non, mais la série sur mes petits papiers, faut que je la regarde.
Ah ouais, mais t'étais un client de vie hier ou pas?
Ah, j'ai tout vu. Hier, j'ai tout regardé.
T'as tout regardé? Qu'est-ce que t'attends? C'est une série pour nous, quoi. Vraiment. Et putain, Noah Wyle, on l'oublie, mais putain, quel super acteur. Ouais, il a pas eu la carrière
qu'il méritait, hein, surtout. Ouais.
Et franchement, grand comédien.
Non, mais je vais la regarder, mais au niveau série, écoute, je suis en train de rattraper It's Always Sunny in Philadelphia, j'ai presque fini, je suis à la saison 17. Et ça continue de me faire rire, parce que Danny DeVito, parce que tous les autres. Et puis, sur Seinfeld, on est arrivé au moment où maintenant la série est drôle.
C'est à partir de quelle saison 2, 3 ?
Je dirais à partir de la saison 3, ça commence à être vraiment sympa. Et saison 4, ça trouve vraiment son rythme.
D'accord.
Parce que saison 4, c'est le moment où ils commencent à partir dans le méta. Genre, ils vont pitcher une série à un network. Et la série, c'est des personnages où il se passe rien, quoi. En gros, ouais. C'est Seinfeld, quoi. et c'est là où ça devient vraiment intéressant, où t'as George Constanza qui se révèle être Larry David, mais complet, c'est là que c'est drôle.
Tu vas regarder Curb ou pas?
Tu me connais, je regarde Seinfeld parce que j'ai pour ambition de regarder
Curb.
Oui,
mais parce que Curb en parle souvent, en fait.
Je voulais pas passer à côté du contexte, en fait. Et je sais que Seinfeld, c'est tellement important aux États-Unis que... Vu que Curb en parle, je voulais avoir le contexte. Donc, c'est par complétionnisme que je regarde Seinfeld.
Oui, bien sûr.
En revanche, hein, les segments stand-up me font toujours pas rire. Hein. Je trouve toujours que c'est un stand-upper catastrophique, Jerry Seinfeld. Vraiment, il me fait pas rire.
Je sais pas. Moi, à la fois, je trouve qu'il a du mérite parce qu'il essaye de faire du stand-up sans faire de gros mots, sans être oppressif et tout. Mais en fait, je pense pas que...
Je pense que c'est faisable tout en étant drôle. Et ça, il y arrive pas.
Tu sais que ce qui sort le 20 mai?
Non.
Improduction RPU.